on est de retour et on avait hâte de lui parler parce que c'est riche en actualité. En plus, le Canadien joue aujourd'hui. David est avec nous. David, comment ça va?
Comment ça va, Beg?
Comment ça va, les amis?
Très bien, David.
Parfait, ça.
David, pour commencer, écoute, ça fait drôle de dire ça parce qu'on se demande, on l'avait quasiment oublié un moment donné quand est-ce qu'il allait jouer, qu'on a dit qu'on allait mettre de côté en attendant qu'il soit prêt, mais Dak va jouer son premier match ce soir. Combien de matchs tu penses qu'il va jouer cette année avec le CH? Puis la question encore plus importante, dans ces matchs-là, combien de matchs tu penses qu'il va jouer au centre du deuxième trio?
C'est une question qui est dure à répondre parce que c'est un gars que dans les six dernières saisons, il y a une moyenne genre de 45 parties par saison. Là. Il a jamais joué une saison plus de 70 parties. Il est toujours blessé, ce gars-là, depuis qu'il est avec les Blackhawks. Donc moi, je pense que ça serait toute une victoire pour ce gars-là d'aller jouer à peu près, disons, 72 parties, 73 parties. Je m'attends pas à ce qu'il vienne jouer une saison complète. Il c'est pas dans ses habitudes. C'est un gars qui est toujours blessé. Moi, je pense que cette année, il joue son contrat. Il joue son futur. Il va falloir qu'il se donne à 1000%. Je pense qu'il va jouer à peu près 70, 72 parties. Même s'il y a des bobos, il va jouer. OK? Je pense qu'il va le faire. Je parle pas que s'il y a une autre blessure au genou parce qu'il s'est fait rentrer dedans ou quelque chose qui est incontrôlable. Mais s'il est capable, ce gars-là, il va toffer. Moi, je pense 70, 72 parties. Ça va être la saison où il va jouer le plus. Mais je pense malheureusement qu'il ne jouera pas plus de 37 parties au centre. Et pourquoi le chiffre 37? Parce que ça nous amène à la période de freeze des transactions de décembre, après le Thanksgiving. Et moi, je suis pas du tout convaincu que ce gars-là va nous prouver d'ici Thanksgiving et un peu plus après que c'est le joueur de centre numéro 2 des Canadiens pour rouler Laine et Demidov. Alors moi, je pense que les Canadiens vont avoir le temps de voir ce qui se passe à travers la Ligue, avoir une équipe qui est un peu désespérée, qui est prête à descendre dans les classements, qui vont donner des bons joueurs de disponibles pour une transaction. Et je pense qu'on va le muter à l'aile, à Dak, ou peu importe. Donc je pense pas que, pour répondre à ta question, il jouera pas plus qu'une trentaine de parties, 30, 35 maximum au centre cette année. Je le vois pas faire une saison complète au centre.
Premier match pour lui ce soir avec Laine et Demidov au Centre Bell contre les Leafs de Toronto. Également, David, on a vu un gros premier match du premier trio. Il rejoue ce soir, Caulfield, Suzuki et Slav à la maison comme ça. À quel point t'es confiant de les voir avoir une grosse saison ensemble?
Ouais, je m'attends à une grosse saison. Une très grosse saison même. Tant qu'il n'y a pas de blessure, naturellement. Les blessures dans le sport, on ne sait jamais. Mais s'il n'y a pas de blessure, je m'attends à une énorme saison. Slav, là, je m'attends, bon, on a vu dernière partie, on peut dire la tendance, c'est que on voit que, waouh, il s'est amélioré, on est excité. Et à un moment donné, pendant le camp, au début, on disait qu'il était pas tout, il était un peu nonchalant. La réalité, c'est que Slav, il s'est reposé cet été, il a fait ce qu'il avait à faire, il sait exactement dans quelle direction s'en aller, il a travaillé tout l'été, OK, avec Adam Nicklaus à distance pour s'assurer que les choses se fassent. Moi, je m'attends que sa première année de contrat, OK, de son gros contrat, il va vouloir prouver, il va vouloir commencer fort. Suzuki est dans une année olympique. Il veut faire l'équipe. On a vu qu'il était incroyable dans le match. Et Cole Caulfield, ben, je pense qu'il va vouloir prouver à tout le monde que c'est un marqueur de 40 buts. Donc, je pense que là, on a vraiment un... Je me rappelle pas, c'est quand, Stéphane, qu'on a eu un trio numéro 1 avec les Canadiens de Montréal. Ça fait des années que j'ai pas vu un potentiel pareil. Je pense depuis le temps de Turgeon, Danfous et ainsi de suite.
Et Racky, ouais.
Donc je pense que c'est ça.
Ensemble.
Donc, ouais, je m'attends à une grosse saison, là, répondre à la question.
Mais David, justement, quand tu dis que ça fait longtemps que le Canadien n'a pas eu un vrai premier trio, si on te demande, à travers la LNH, avec toutes les équipes qui ont un premier trio, à quel rang tu places le premier trio du CH?
Moi, je le placerai possiblement presque 8e, je dirais 7e. Moi, je pense que le trio de Suzuki, là, c'est le 7e meilleur trio de la Ligue nationale. Et je m'explique vite fait. Il y a des trios qu'on connaît, là, mais peut-être pour nos auditeurs, là, le trio de McDavid est comme imbattable, là, avec Hopkins, Hyman. On est d'accord que McDavid sur un trio, c'est dur à battre.
Ouais.
On est d'accord que le trio de Eichel avec Marner, possiblement Barbashev, il est meilleur.
Ouais.
Ouais, totalement. Okay. L'arrivée de Marner.
On est d'accord. Alors, on est d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord que le trio avec Matthews, Nylander et Knight, c'est meilleur?
Ouais.
Donc, on est d'accord. Est-ce qu'on est d'accord que possiblement Braden Point avec Kucherov et Kuntsev, c'est meilleur?
Totalement. Ça, c'est sûrement un des meilleurs de la Ligue, sinon le meilleur.
Ouais. OK. Est-ce qu'on est d'accord que possiblement Prince avec Rantanen et Robertson, c'est meilleur?
Ouais.
Et Colorado aussi, moi, je me
trompe. Et Colorado la Floride, avec McKinnon, Nekas et Lekkonen.
Ah ouais.
On est d'accord? OK. Donc, moi, je pense que juste après ça, on a ce trio-là. Donc, à mon avis, je vois ce trio, le septième meilleur trio de la Ligue nationale. Puis c'est pas mal, les amis. Puis ce que je suis en train de vous dire, ils sont peut-être septième, à mon avis, mais peut-être que dans deux ans, ils sont deuxième ou troisième, là. Donc, c'est bien parti. Puis avoir le septième meilleur trio de la Ligue nationale, je me souviens pas, c'est quand c'est arrivé ici, là, donc c'est ce que je pense.
Oui, c'est un bel exercice. On vous posera la question un peu plus tard à l'émission. Parlons de Slav. On va isoler Slav sur le premier trio, David. On en a beaucoup parlé, puis on aimerait ça le voir accéder à un prochain niveau. C'est également sa première année de contrat à 7,6 millions. L'importance d'un bon début de saison également. Tu vois quoi comme saison pour Slav et à quel point tu es confiant de le voir bien débuter la saison?
Slav, je vois sa plus grosse saison. Ça va être sa plus grosse saison depuis le début de sa carrière. 51 points, 50 points, on le sait. Mais ce qu'on a peut-être pas analysé dans le jeu de Slav dans les premières moitiés de saison, c'est pas à part d'il y a deux ans là et même là, son problème c'est pas au niveau des points dans la première demi, mais plutôt le montant de combien de buts est-ce qu'il a marqué dans la deuxième moitié de saison. Et l'année dernière, j'ai fait l'exercice vite fait, c'est 14 buts dans les 41 dernières parties l'année dernière. Donc, il n'y en avait marqué que 4 dans la première moitié de la saison. Et l'année d'avant, il y en a marqué 16 dans les dernières 41 parties. Et il y en avait encore là, marqué que 4 dans les premiers 41. Donc, le problème de cela, ce n'est pas au niveau des assists, la première moitié, mais au niveau des buts. Donc, moi, ce que je pense, c'est que il va falloir qu'il prenne plus de lancers, qu'il continue à aller dans les zones où ça fait mal. Je pense que ça va faire une différence et je pense qu'il a compris ça. Et Slav, ça sera jamais un joueur de 120 points. Slav, à mon avis, peut-être je me trompe, ça va être un joueur dans son pic, 75 à 85 points max. C'est son style de jeu. Donc moi, je pense qu'il va possiblement faire 24 buts. Ça va être sa meilleure saison parce qu'il devrait aller chercher 3, 4, 5 buts de plus dans les premières 41 parties. Ou peut-être un peu plus et un peu moins après. Donc, je le vois faire à possiblement 24 buts, 35 à 35, 37 passes pour finir entre 59 et 61, 62 points cette saison. C'est prochain ce que je m'attends pour Slav.
Prochain palier de 60 points déjà là, avec s'il fait le travail et qu'il fait tout le reste, là, c'est parfait pour Slav à 21
ans. Puis n'oubliez pas, les amis, il est passé de moins 19 à plus 4 l'année dernière. Donc, les gens disent souvent, ah ben là, il a fait qu'un seul point de plus, mais il est passé de moins 19 à plus 4. Donc, il est beaucoup plus complet qu'avant.
Pensez que Rheinbacher, David, avec toutes les blessures qu'il a eues, puis on sait qu'il a besoin d'un aîné à Laval, il reste un défenseur important pour le futur du CH. Est-ce que tu étais inquiet de son développement jusqu'à maintenant?
Oui, je suis inquiet de son développement. Je suis pas inquiet de disons, la tendance, parce qu'on voit qu'il est hyper... Il est stable, il est talentueux, il fait toujours les bons jeux. Il manque un peu... Il doit jouer plus. Il a manqué beaucoup de hockey. Moi, ce qui m'inquiète, c'est un gars qui se blesse toujours et souvent. Puis on l'a vu avec Dak, qu'est-ce que ça fait à un joueur. Et ça, c'est le volet qui m'inquiète. Pas nécessairement son talent ni sa progression actuelle, mais cette année-là, il doit rester en santé, ce gars-là, absolument. Ce gars-là, il faut qu'il joue cette année. Il faut qu'il joue possiblement, il va être à Laval, ils vont peut-être le remonter une couple de fois. Mais moi, je dirais que oui, j'ai confiance qu'il va être un top 4 avec les Canadiens pour longtemps, mais il faut absolument que ça se termine une fois pour toutes cette histoire de blessure. Et je vais aller plus loin que ça. Si je serais à la place des Canadiens de Montréal, puis que je voudrais aller chercher un autre élément, peut-être que j'écouterais pour un Rheinbacher. Plus je pense à ça, plus je me pose la question. Donc ça va être très important de voir comment est-ce qu'il va se développer cette année, comment est-ce qu'il va rester en santé pour son futur avec les Canadiens. Mais c'est clair qu'il a le potentiel d'être un top 4 ici pendant 10 ans.
On regarde l'alignement du Canadien de Montréal et on regarde les auditions. T'sais, là, on en voit une. C'est sûr, il y a un poste pour jouer avec Newhook et Bolduc sur un troisième trio. Ce soir, il y en a quelques-uns qui vont être dans la formation. Qui tu vois, toi, gagner ce poste-là? Est-ce que c'est Beck? Est-ce que c'est Kapanen? Est-ce que c'est Roy? Il y a Jacka, il y a Veleno, il y a Blais. Il y en a une méchante gang de joueurs chez le Canadien de Montréal qui peuvent se battre pour ce poste.
Personne au Québec a la réponse, même pas les Canadiens de Montréal. Ça, c'est la vérité. Parce qu'en réalité, là, il nous reste plusieurs jours du camp d'entraînement, on aura nos réponses. Parce qu'en début, avant le début, on se disait, ben, c'est pas probablement Veleno ou peut-être Blais, ou un vétéran. Mais là, on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en réalité, on a Jacka. C'est Jacka dans un an qu'on a besoin. Jacka, il manque encore un peu d'expérience, positionnement, ainsi de suite. Mais c'est Jacka qui se démarque à l'heure actuelle comme le centre parfait. Parce que qu'est-ce que tu recherches à l'heure actuelle? Tu recherches un gars qui a du grit pour compenser, pour New Hook. C'est pas le gars qui a le plus de grit, Bolduc, oui. Mais tu veux un gars qui a du poids, qui a du grit? Ça, c'est Jacka, c'est Blais. C'est un peu Beck. Tu veux un gars qui est capable de gagner des mises en jeu pour ces gars-là? Important. Ça, c'est Beck et c'est Jacka. C'est pas les autres. Tu veux un gars d'expérience? Ça, c'est Blais et Veleno. C'est pas les autres. Et là, tu veux un gars qui est un peu d'offensive? Ça, c'est Kapanen et Jacka un peu. C'est pas les autres. Et un peu Beck. Donc, il y a aucun. Et il y a Roy à l'intérieur de tout ça qui peut mêler les cartes un peu, mais on est loin du compte. Donc la réalité, c'est que je pense à l'heure actuelle, si je dois répondre à ta question, la logique pour moi, c'est Beck. Pour le moment. Pourquoi? Il gagne ses mises en jeu, il est capable d'avoir du grit, puis il est capable de donner un peu d'offensive quand c'est le temps. C'est lui le mieux positionné à l'heure actuelle. Mais c'est clair que, tu m'aurais dit ça il y a un mois, c'est un job pour Veleno à gagner et à prouver parce qu'il y a l'expérience. Mais à l'heure actuelle, je pense que Beck est en avance. Kapanen aussi, il a fait quelques bonnes affaires, surtout dans les tirs là, des pénalités. Mais bref, c'est ce que je vois à l'heure actuelle.
David, celle-là, essaie de la faire en deux minutes. Friedman évoque la possibilité de maraudage dans le dossier de Kaprizov en disant que DDG aurait indiqué à l'agent qu'une énorme offre s'en viendrait s'il n'accepte pas l'offre de Minnesota. Puis ça serait une des raisons pour laquelle il aurait refusé 16 millions par année. Dans les coulisses, là, quand tu es un agent, est-ce que ça arrive souvent que des DG vous contactaient pour vous indiquer que si jamais vous êtes ton joueur est disponible, qu'il pourrait avoir une belle offre?
Alors oui. Oui. Mais je pense pas que c'est le cas à l'heure actuelle. Et oui, ça arrive. Comment que ça se passe un peu? Vous voulez savoir si ça se passe? C'est des relations. Un DG et un agent, ce sont des relations. Un agent n'est pas, je l'ai déjà expliqué, n'est pas en contact avec 32 DG comme un ami à lui. C'est pas, il n'y a pas le même contact avec tous les DG. Donc, il va avoir certains amis, certains DG avec qui il y a une bonne chimie, avec qui il parle de tout et de rien. Et il sait spécifiquement que la discussion qu'il va avoir va rester à huis clos. Elle sortira jamais. Et à l'intérieur de ça, ils vont se dire, bon, ben, écoute, bon, j'aimerais bien, ton joueur-là, il serait bien dans mon alignement, peut-être que si ça arrive. Et ils savent que ça reste entre eux. Mais le risque est monstre. Parce que si tu parles à un gars et ça sort, t'as des lourdes amendes jusqu'à 3, 4, 5 millions, tu perds des choix au repêchage, le DG peut perdre son poste, la Ligue peut donner des mesures punitives beaucoup plus grandes, et l'agent de Kaprizov, c'est pas Théophonette, c'est un gars qui, c'est lui Panarin, Bobrovsky, ok, c'est un gars qui, il n'y a pas tellement de joueurs, mais c'est pas le genre de gars qui a des relations, c'est pas l'agent le plus qui a le plus de joueurs. Donc c'est pas le gars qui a des relations avec tout le monde pour dire, écoute, moi exemple dans le temps j'étais Marc Bergevin et Pat Brisson, qui sont des amis de longue date. Il y a pas, je vois pas ça avec lui, avec Paul. Donc en réalité, je pense que c'est faux. Et dites-vous une affaire, si c'est le cas, Minnesota vont l'échanger dans un sign and trade bien avant qu'il se retrouve à le perdre. Donc tout ça c'est du blabla là. C'est pas vrai. Et à 16 millions, dis-toi une affaire. Si le gars, il veut du cash, il crache pas sur 16 millions. Exact. Parce que je peux être un DG, te promettre 18 millions, puis changer d'idée parce qu'il n'y a rien de signé, puis tu auras perdu ton 16 millions pendant 8 ans. Il n'y a pas un fou qui va faire ça.
Très bon point.
On l'entend plus souvent. On l'a entendu aussi avec Marner, enfin, en tout cas durant l'été. On verra. Mais David, merci beaucoup pour les précisions, pour nous amener dans
très
les coulisses.
Très bon, David. C'est très bon.
David, on te souhaite un bon match ce soir, une bonne semaine, puis on se reparle très bientôt, mon ami.
Merci, David.
Merci, bonne semaine, les gars.